Le masque et la plume. Nous sommes donc à Avignon pour deux émissions en public et aujourd'hui, comme la semaine prochaine, quatre critiques spectateurs à plein temps montent sur la scène installée en plein air entre les deux platanes de la cour du cloître Saint-Louis pour débattre des pièces programmées dans le in et le off. Les présents sont Pierre Lesquelaine de I.O. Gazette et du magazine en ligne Détective Sauvage, Sandrine Blanchard du journal Le Monde, Fabienne Pascaud de Télérama et Laurent Goumard de Libération et de France Inter. Au programme, des chansons de Brel dansées par Anne-Thérèse de Kersmaker, le retour du metteur en scène allemand Thomas Ostermeyer avec une pièce d'Ibsen, le seul en scène de Kelly Rivière, une pièce de Beaumarchais avec Philippe Torreton dans le rôle principal et une enquête sur la famille que la metteuse en scène Émilie Rousset a menée en Europe. Bonjour, bienvenue, Le Masque est à la 79e édition du Festival d'Avignon. Et pas d'Avignon pour moi, m'écrit Séverine sur Instagram. L'année dernière, vous avez affirmé « Si tu n'es pas à Avignon, Avignon viendra à toi ». Alors je vous écoute et regarderai le soulier de satin depuis mon salon. Une précision, le soulier de satin mis en scène par Eric Ruff avec la troupe de la Comédie Française qui fut l'un des événements de la saison théâtrale. Le soulier de satin va se jouer dans la cour d'honneur du Palais des Papes du 19 au 26 juillet et la pièce sera diffusée sur le site de France Télévisions, d'où le mot de cette auditrice disant que le soulier sera dans son salon. Ce sera en ligne à partir du samedi 19 juillet et sous forme de 4 épisodes de 1h30 à 2h grâce à une captation réalisée à la Comédie Française par Arnaud Desplechin. J'ajoute qu'Avignon dans votre salon, c'est aussi possible grâce à arte.tv puisque vous pourrez voir Les Incrédules de Samuel Achache programmé dans le IN et qui sera en ligne à partir du 22 juillet. Marc Fourny, lui, est un auditeur festivalier qui souhaite partager son coup de cœur. C'est le prélude de Pan de Claire Redouin. Marc Fourny écrit « Comme Ariane Mnouchkine qui demande à la pause si elle peut vous arroser au jet pour vous rafraîchir, Claire Redouin s'enquiert avec autant de soin de ses spectateurs novices ou éclairés pour expliquer la genèse de son nouveau projet de théâtre déambulatoire qui articule paysages naturels, langue de Giono et témoignages documentaires d'agriculteurs. » Le prélude de Pan de Claire Redouin est un spectacle en déambulation jusqu'au 20 juillet. À la fin de l'émission, d'ailleurs, vous, public qui êtes là, vous pourrez proposer d'autres coups de cœur. Enfin, sur Instagram, Rosa dit avoir vu et aimé La Distance de Thiago Rodriguez et cette auditrice a recopié un extrait de l'interview qui figure sur la feuille de service, la feuille de salle, pardon, vous savez, le document qui nous est distribué avant le spectacle. Et à la fin de cette interview, Thiago Rodriguez déclare « Quand nous terminons un livre qui nous a bouleversés, nous restons seuls, silencieux face au livre. Avec le théâtre, nous sommes immédiatement en mouvement, dans la rue avec les autres, comme si nous avions tous des points d'interrogation sur le dos. On aide l'autre à côté de nous à marcher avec son point d'interrogation. Je suis là pour 4 jours, écrit Rosa, donc pour les points d'interrogation, je vais bien faire le plein. » On commence avec Brel et surtout avec ses chansons chorégraphiées par Anne-Thérèse de Kersmaker et Solal Mariotte, qui fut élève à l'école qu'elle a fondée à Bruxelles. Elle est flamande, il est français, elle a 65 ans, il a la vingtaine, elle est une figure majeure de la danse contemporaine, il est un jeune danseur qui vient du hip-hop. Avant une longue tournée en Europe, il crée ce spectacle intitulé Brel dans le décor fantastique de la carrière de Boulbon, c'est-à-dire une scène immense au pied d'une falaise sur laquelle est parfois projetée la silhouette de Brel et des mots de ses chansons en très gros caractères. Anne-Thérèse de Kersmaker et Solal Mariotte portent des costumes gris, trop grands, dont ils vont se défaire. Au début, la scène est nue, un micro sur pied est au bord de la scène et sous un faisceau de lumière, comme au temps du music hall. Pendant 1h30, on écoute et on regarde une vingtaine de tubes de Brel diffusés dans l'ordre chronologique. Donc ça commence en 1954 avec Le Diable, ça va, et ça se termine en 1977 avec Jojo. Fabienne.
Ah, alors déjà, dire le, L'inquiétude que j'ai en tant que spécialiste du théâtre de parler d'une immense chorégraphe, chapeau bas pour le travail d'Anne-Thérèse de Kersmacher, qui est une splendide artiste un peu cérébrale, un peu d'une précision, d'une rigueur extraordinaire, travaillant surtout sur des classiques. Mais hélas, je dois avouer avoir été très déçue par le spectacle, que j'attendais évidemment avec impatience, étant amoureuse de Brel depuis mon enfance, beaucoup plus que de Brassens. Il y avait les Brel et les Brassens, mais ceux qui étaient passionnés aimaient plutôt Brel. Et,
donc, tu boxais dans cette catégorie.
Les gestes de Fabienne.
Et donc là, je dois dire que j'ai été très étonnée qu'une chorégraphe aussi brillante qu'elle ne fasse que de l'illustration, quasiment du mime sur les chansons de Brel. Elle parle d'un personnage qui met les mains dans les poches, elle met les mains dans les poches. Elle parle d'un personnage qui fume, elle fait semblant de fumer.
Enfin, oui, mais bref. Ça, c'était aussi le jeu de scène de Brel.
Mais oui, mais c'est pauvre comme chorégraphie, c'est très pauvre. Alors évidemment, les aficionados sont bouleversés parce qu'elle sourit. Anne-Thérèse de Kersmacher ne sourit jamais. C'est comme Garbo, la pub de Ninotchka de Lubitsch, où on disait Garbo sourit. Tout le monde est fasciné parce qu'Anne-Thérèse de Kersmacher sourit.
Et derrière son sourire, on voit bien que c'est droupi de toute façon.
Ça ne suffit pas. Et elle se met toute nue. Ça ne suffit pas pour faire un spectacle. J'ai été vraiment déçue.
Oui, mais enfin, elle est accompagnée. Et il y a ce jeune Solal Mariotte qui est formidable. Moi, en fait, ce spectacle, il m'est resté en tête et il m'a fait aimer Brel. Bon, j'ai pas énormément, je suis pas d'une génération qui a beaucoup écouté Brel, mais là, j'ai vraiment redécouvert.
Merci.
J'ai vraiment redécouvert, enfin, on redécouvre ces textes qui, en plus, sont projetés, notamment sur cette falaise. Et Solal Mariotte, moi, au début, j'avoue, ce spectacle, au début, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oula.
Ah, ben non, le début est fantastique.
Laisse-moi expliquer avec pourquoi. C'est parce qu'effectivement, d'ailleurs, dans la feuille de salle, il est dit. Ça peut paraître incongru de vouloir danser sur Brel. Et je me suis dit, oui, effectivement, c'est un peu incongru. Et en fait, quand Solal Mariotte arrive et se met en mouvement, il est d'une fluidité, il est d'une beauté, d'une... Enfin, moi, à un moment donné, je me suis dit, je ne regarde plus que lui.
Bah oui, on a l'impression d'être une émission, la Belgique ou la France a un incroyable talent quand il arrive. C'est de ce niveau-là. Quand il arrive en pleine lumière et qu'il fait son show.
Mais si, c'est-à-dire,
c'est de faire un show, purement télévisé, c'est-à-dire danser et de mimer une chanson. C'est exactement ce qui se passe dans cette émission télévisée. Et c'est pas plus, en fait. C'est ça qui est dramatique.
Ah non, je pense qu'il faut beaucoup aimer Solal Mariotte pour aimer ce genre de danse. C'est beaucoup plus. Et puis, il y a ce. Alors, ce qui est certain, c'est que cette carrière de Boulbon, moi, je trouve que c'est un lieu, mais vraiment extraordinaire.
Qui ne sert absolument à rien pour
Il y a les ombres, Laurent.
L'utilisation de la façade est magnifique. Et c'est justement, moi, c'est l'interrogation que j'ai par rapport à ce spectacle. C'est que qu'est-ce qu'il en sera quand il ira dans un théâtre traditionnel, fermé? Je pense que peut-être qu'il perdra. Parce qu'on se sent, mais totalement... Moi, je me suis sentie, le son est excellent. Et je me suis sentie totalement enveloppée par les paroles de Brel. Et j'ai fini par
être... C'est la moindre des choses quand même que le son soit bon.
C'est la moindre des choses. D'abord, il faut un très bon son. Et puis, voilà, la force de ces textes. Et je trouve que l'enchaînement des chansons fonctionne très bien. Quand même, c'est quand même un sacré moment. Quoi.
Alors Pierre, toi, tu ne fais pas partie d'une génération qui a écouté Brel. Mais il y a quand même l'idée aussi de est-ce qu'on entend... Brel différemment avec la danse.
Bien sûr, moi c'est ça qui m'a beaucoup ému dans ce spectacle. Alors évidemment les émotions elles sont intermittentes parce que elles naissent et elles s'en vont en fonction des chansons, des moments. Moi je l'ai vu pas tellement comme un spectacle illustratif mais comme une tentative poétique assez modeste en faire comment en l'absence de Brel faire encore résonner et éprouver sa musique dans un paysage. Et ce que j'ai trouvé très beau c'est ce micro au milieu de la scène comme si c'était un récital spectral. Pour moi je l'ai pas pris comme une chorégraphie, je l'ai pris comme un récital en l'absence de Brel. Comment rendre encore hommage au poème de Brel et ce en superposant les chansons, le texte qui est projeté donc qui prend une consistance parfois minérale et puis les corps qui ne s'imposent pas à la musique mais on a l'impression qu'ils sont traversés comme des fans en fait, comme des amoureux et des amoureuses de Brel par ses chansons. Et donc oui, moi j'ai eu l'impression qu'on renouvelait mon écoute de sa musique et vraiment c'est un spectacle que j'ai trouvé sur un film et très beau.
Moi, c'est un spectacle que j'ai cru aimer dès le départ. C'est-à-dire, le départ, les trois premières chansons, c'est absolument magique. C'est-à-dire, il y a trois chansons qui apparaissent. Au début, le plateau est nu. Ensuite, Anne-Thérèse arrive, elle est immobile et de dos, légèrement décalée. Et ensuite, juste un petit haussement d'épaule. Et moi, ça m'a rappelé, il y avait un autre chorégraphe, un chorégraphe allemand, qui travaillait les chansons, qui s'appelait Raymond Hogg. Et Raymond Hogg avait toujours une manière de faire parler les chansons juste avec un seul geste. Il y avait une sorte de déconnexion presque abstraite. Ici, on est dans une danse purement narrative, et je pense qu'il faut beaucoup aimer le théâtre pour aimer ce genre de danse.
Mais les chansons le sont en même temps.
Ouais. Les chansons sont narratives, mais on n'est pas obligé d'être narratif. Anne-Thérèse Kersmaeker a passé sa vie. Anne-Thérèse Kersmaeker a passé sa vie à traquer et à être travaillée véritablement par les structures mélodiques. Et d'ailleurs, il y a des spirales qui sont tracées sur le sol. Et là, on voit qu'elle est, quand elle ne mime pas, parce qu'elle mime véritablement les chansons, elle rejoue perpétuellement ce qui est sa signature, c'est-à-dire des spirales et des tours.
C'est tube
mais
contre
tube. Coincée, elle est complètement coincée.
C'est
un spectacle, en fait, d'une femme vieillissante, d'une danseuse vieillissante.
Non. Mais il n'y a rien de mal à être vieillissante.
J'explique par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que je vois une vieille femme sur le plateau. Je vois simplement une artiste
qui
est coincée dans le stéréotype de sa propre chorégraphie. Et c'est ça que je trouve dommageable. En revanche, quelque chose m'a intéressé.
Elle est accompagnée et je trouve que cette transmission...
Tu dis en plus,
il n'est absolument
dire
pas...
Narratif,
son danseur n'est absolument pas concerné par le répertoire de Brel. On le voit. D'ailleurs, au départ, il est complètement extérieur et il arrive à la fin pour faire son show. Il y a juste une chose qui m'a intéressé, c'est qu'il y a dans cette pièce trois gestes qui sont des réservoirs de tout ce qu'on a pu voir dans le festival. Par exemple, Brel, qui va revenir dans La Lettre, on en parlera demain, de Milo Rao, donc la chanson de Brel. Il y a autre chose, elle tape avec Solal, ils tapent sur le sol avec leurs vêtements, ils frappent le sol de leurs vêtements, quelque chose que l'on verra dans Darius Night de Mitte in Darkten. On le voit aussi chez Marthaler, et on le voyait aussi dans La Cour d'honneur, comme s'il y avait dans ce spectacle une sorte de précipité de tout ce que l'on va pouvoir voir dans le festival.
Brel, d'Anne-Thérèse de Kersmaeker et Solal Mariotte, c'est à la Carrière de Boulbon jusqu'au 20 juillet, et ils seront au Théâtre de la Ville à Paris du 11 au 20 mai. Après Anne-Thérèse de Kersmaeker, voici venir un autre grand nom du théâtre européen, à savoir l'Allemand Thomas Ostermeyer, qui n'était pas venu à Avignon depuis 13 ans et qui est de retour avec le même auteur, Henrik Ibsen, et au même endroit, le Grand Opéra d'Avignon. La pièce s'intitule « Le canard sauvage ». Ostermeyer l'a adaptée, notamment en transposant l'action de la fin du 19e siècle à aujourd'hui, et le sous-titre pourrait être « Faut-il tout dire ou entretenir le mensonge ?» Gregor Sverle, un fils à papa, en rupture avec son industriel de père, se rend dans la famille déclassée de Hjalmar, son ami d'enfance. Gregor n'est pas en mission pour le Seigneur, mais en mission pour la vérité. Il est convaincu que c'est la condition d'une vie meilleure. Il décide donc de révéler à Hjalmar que sa femme fut la maîtresse de Verlet Senior. Première révélation qui a l'effet d'une bombe, et il y en aura d'autres. Le tout se déroule dans un décor pivotant et très réaliste, avec les comédiens de la Schaubühne de Berlin. Sandrine.
Tu parles du décor, il y a quand même un problème sur le décor, moi qui m'a interrogée, c'est qu'on a l'impression un peu d'être dans les années 70, alors qu'ils ont un ordinateur, un téléphone portable, enfin bon, il y a un espèce de décalage. Mais au-delà de ça, en fait, moi ce spectacle, j'ai eu beaucoup de mal avec la première partie, où on s'ennuie, mais par contre, il y a des comédiens, il y a une
distribution. C'est vrai, ni de réussite, ni d'échec.
Voilà, mais il y a une distribution absolument exceptionnelle. Moi, je trouve que les comédiens sont absolument remarquables. Et surtout, en fait, j'ai envie de sauver ce spectacle à cause de sa deuxième partie. Où là, moi, ça m'a happé. Ça monte en puissance. Il y a une tension absolument redoutable. Il y a cette idée, alors je pense qu'elle ne plaira pas à tout le monde, mais quand le comédien s'adresse à tout le monde sous la forme d'un stand-up et pose des questions absolument redoutables qui nous restent en tête, je pense, assez longtemps.
Ça, je pense que Laurent va détester.
Voilà, je pense aussi.
Même pas. Même pas en rêve.
Tu es plein de surprises.
Et voilà, la réflexion qui est posée dans cette pièce est passionnante. Elle a un côté qui hante. Et vraiment, cette dernière partie... Et cette jeune femme qui va être victime
du mensonge comme
de
la vérité.
Enfin voilà, et de, C'est absolument, moi j'ai trouvé ça poignant, et j'ai été subjuguée par le jeu des comédiens.
Stéphane Stern dans le rôle de Hjalmar et Marcel yes. Kohler dans oui. celui de Gregers.
Je vais te rejoindre, Sandrine, sur beaucoup de choses, bon, sauf incroyable. Sur le côté gadget. Je m'adresse au public pour savoir si on a trompé son conjoint. Bon. Mais en revanche, sur pas mal de choses, notamment les acteurs absolument prodigieux. C'est vrai que Stéphane, celui qui joue le rôle de
Stéphane Stern,
voilà,
de Hjalmar,
d'Ekdal, est à des années-lumière de tout ce que l'on a pu dire et jouer sur ce personnage. Alors, vraiment, je l'ai trouvé très très fort. Le seul problème, c'est pour moi le fait que peut-être, en fait, bon, je me suis mortellement ennuyé dans la première partie. Ah, la deuxième, en effet, m'a vraiment intéressé. Mais j'ai trouvé que c'était une pièce qui se reposait véritablement sur ses acteurs, et pourquoi pas, comme ils sont prodigieux, mais on n'est même pas au spectacle de les voir jouer. Non, moi, ce qui m'a peut-être dérangé, à un moment donné, je me suis dit, si je n'arrive pas à regarder véritablement ce qui se passe, c'est peut-être que cette pièce en elle-même a vieilli, autour notamment de cette métaphore du canard sauvage, c'est-à-dire ce canard qui a été recueilli après une chasse et qui est aujourd'hui donc flanqué dans le grenier ou dans le jardin attenant de la famille.
Il n'en fait rien du canard sauvage, surtout.
Il n'en fait rien, c'est peut-être une bonne idée qu'il n'en fasse rien, mais elle est présente comme une métaphore de bien sûr ce qui va arriver à cette famille, et je trouve ça déjà dans l'écriture quelque chose d'un peu daté, et la mise en scène ne vient pas rejouer autre chose que ce côté daté. C'est la seule, voilà, c'est un spectacle assez inégal, avec une scénographie qui en raconte beaucoup sur les ambitions du chorégraphe.
Pierre.
Oui, c'est sûr qu'on est plus sur du théâtre bourgeois bien confit que sur du Carpaccio sauvage. Mais je trouve qu'on avait perdu Ostermayer dans ses adaptations d'autofiction, de romans qui étaient très littérales, très peu inspirées. Là, moi, je trouve qu'on retrouve ce qu'il sait faire de mieux et ce pourquoi il a été popularisé, c'est-à-dire ce sens du naturalisme vivant, habité à partir d'un texte du répertoire. Et moi, ça l'est lecture du texte m'a quand même intéressée parce qu'on montre tout le temps cette pièce comme une pièce sur le mensonge. Or, lui, il la montre comme une pièce, au contraire, sur la vérité, sur l'impossibilité de la vérité. Comme une pièce sur un sacrifice, en fait. Comment cet homme, Gregers, va faire exploser ce petit monde en le mettant au devant de la nécessité de sa vérité. Sauf que, je te rejoins, Laurent, sur le côté un peu daté de cette actualisation, c'est que Ostermayer, il a monté des autofictions et donc on sent qu'il est travaillé par cette obsession de la vérité. Les autofictions, elles délivrent c'est des brûlots sociologiques. Et je pense que cette pièce n'en est pas un. C'est une pièce sur des tabous familiaux. Et donc, on sent qu'il gonfle un peu le propos politique de la pièce, mais que la pièce n'a pas cette épaisseur à lui donner, en fait.
Fabienne ?
Moi, je trouve que c'était courageux de la part d'Ostermayer de monter 12 ans après L'ennemi du peuple qu'il avait monté ici, exactement dans le même endroit. Une pièce qui dit exactement le contraire. Hein. L'ennemi du peuple, c'est 1882, le canard sauvage 1884. L'ennemi du peuple défend la liberté, mais une liberté plus politique, plus citoyenne, défend la vérité à tout craint, la transparence nécessaire. Et là, c'est l'inverse. Mais ce que je trouve intéressant, et je ne trouve absolument pas la pièce datée, comme vous le dites, c'est que c'est pas un auteur psychologique, Ibsen, c'est un auteur sociologique.
C'est-à-dire que ce qui l'intéresse... Fabienne, il y a tout en même temps.
Non. Ce qui l'intéresse, ça a été la crise d'une société dans une ville d'eau autour des thermes. Là, c'est la famille, les relations des pères avec les fils, des filles avec les pères, et c'est plus global que ça. Et je trouve que Ostermayer, qu'on a connu si brutal, si radical, là, il monte un théâtre bourgeois psychologisant et où il ne se passe pas grand-chose, où tout est mou et un peu terne.
Ah non, pas dans la deuxième partie.
Le canard sauvage adapté et mis en scène par Thomas Ostermayer, c'est à l'Opéra Grand Avignon jusqu'au 20 juillet. Changement de pays et de siècle avec une pièce de Beaumarchais dans le festival Off. La folle journée ou le mariage de Figaro, avec Philippe Torreton dans le rôle titre, et c'est autour de lui que la metteuse en scène Léna Brabant a composé une troupe qui compte Marie Vial, Grégoire Ostermann ou Annie Mercier. Sur scène, ils sont 11 en tout pour une journée folle, donc, et particulièrement chargée. Figaro doit épouser Suzanne. Elle et lui sont au service d'un comte qui veut empêcher leur mariage et continuer à exercer son droit de cuissage sur Suzanne. En cette fin du XVIIIe siècle, Beaumarchais parlait sexisme et domination de classe. L'ambition de Léna Brabant est de montrer l'actualité de son propos. J'y suis allée un soir où la salle était pleine et en liesse. Pierre ?
Moi, j'ai eu l'impression de voir une troupe amateur qui aurait gagné au loto et qui aurait engagé des guest stars, quoi.
On a vu exactement la même pièce, Pierre.
Vous exagérez quand même un peu, là.
Un spectacle de fin d'année.
Un peu.
Oui, mais comme dans un spectacle de fin d'année, on est quand même touché de voir ses enfants. Là, on est touché de voir Annie Mercier qui arrive tout à coup. On ne sait pas ce qu'elle fait là, mais elle est là, sauf qu'évidemment, personne n'est dirigé, donc... Ils sont quand même très désœuvrés, ces acteurs. Moi, j'ai eu l'impression, déjà, que j'aurais aimé, à la limite, un classicisme bien tenu. Là, rien n'est tenu, ne serait-ce que l'espace. Le sens d'une scénographie, surtout sur un grand plateau comme ça, c'est quand même de creuser, de sculpter l'espace. Là, tout est aplati. Et puis, matériellement, ça ne va pas. Il y a des toiles peintes qui ont été imprimées sur AliExpress. Il y a le dépôt-vente de la Michaudière. Enfin, il n'y a rien qui crée une esthétique, en fait. C'est assez fou. Et puis sa lecture...
Mais on entend Francis Cabrel.
...soi-disant féministe de la pièce. Alors évidemment que la pièce a une violence patriarcale, mais elle utilise elle-même une grammaire de comédie qui est une très vieille grammaire de comédie. Suzanne et Figaro, ils peuvent pas exprimer leur tendresse sans se palper, elle sans montrer sa poitrine. Non mais vraiment, c'est une purge, ce spectacle.
Fabienne ?
Non, moi je ne suis pas enthousiasmée non plus, mais je trouve que Léna Brébant, elle s'est exposée au désir de Toretton, qui voulait jouer Figaro, qui n'en a plus l'âge, il a 60 ans.
Ça, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave.
Non, parce que ça marche plutôt bien.
J'ai du mal à croire que
pas.
C'est le fils d'Anne Mercier. Hein.
Oh. Oui.
Ah si, il y a...
Mais Anne Mercier, de toute façon, elle pourrait jouer un personnage de 150 ans comme une jeune fille de 20 ans. Elle est éblouissante, elle est exceptionnelle.
Mais moi, je suis un peu...
Léna Brébant, elle sait créer la joie sur un plateau, la gaieté, l'allégresse. Alors évidemment, l'adaptation est un peu à la hache. Les comédiens gueulent un peu trop, à mon sens.
Cabotine à mort. Mais il n'y a pas un seul geste, il n'y a pas une invention dans le jeu. C'est de la folie.
Il y a quand même une allégresse. De nous faire entendre ce texte, même si moi, l'orientation qui est donnée à en faire une comédie post-MeToo avec une réflexion sur les
mais
rapports et les femmes...
Mais elle n'est jamais incarnée, cette dimension.
Alors, mais si, c'est ce qui est souligné, alors que le mariage de Figaro, c'est quand même pré-révolutionnaire, ça a été écrit en 1784, Louis XVI a essayé de faire interdire la pièce, donc il y a toute cette dimension politique et sociale qu'incarne bien Philippe Toretton dans son monologue, d'ailleurs, qui est complètement passé à l'as pour les éternels problèmes des hommes et des femmes. Je trouve ça un peu réducteur.
Les liens familiaux, la parole des femmes, la révolution en marche contre l'élite, tout est déjà dans le texte. Elle n'a pas besoin de souligner avec un stabilo comme elle le fait. Vraiment, qu'est-ce qu'elle en fait, Léna Brébant ? Elle en fait une lecture, la gare des Michards, sympa. Pour un spectacle de fin d'année, rien à dire sur la mise en scène à part le mot fluide, c'est-à-dire quand on n'a rien à dire, on dit fluide, comme ça au moins ça donne un aspect. Le jeu des acteurs, mais c'est cabotinage, je trouve qu'il n'y a rien. Enfin, c'est vraiment un spectacle de plus pour du théâtre en moins, et si on veut aller voir autre chose à ce moment-là à la Scala, peut-être aller voir le spectacle qui s'appelle Parle, envole-toi, où le théâtre m'a sauvé la vie, de Bruno Abraham Kremer, qui là parle de son parcours dans le théâtre. Il a rencontré Mnouchkine, il a rencontré Colbert et Peter Brook, et c'est quand même autre chose.
Mais revenons au mariage de Figaro, la folle journée ou le mariage de Figaro, Sandrine.
Alors, moi, je suis plutôt amatrice de Léna Brébant. J'avais beaucoup aimé Musical Colette. J'ai beaucoup aimé Peau d'homme, contrairement à vous, je sais.
C'est dire qu'il y a quelque chose qui va pas.
Voilà. J'avais aimé aussi, Comme il vous plaira, son adaptation de Shakespeare. Et là, j'avoue
que qui était du même ordre, d'ailleurs.
C'était beaucoup mieux. Et là, je trouve qu'il y a un manque d'élégance dans énormément de choses. Il y a un manque d'élégance dans le décor. Il y a un manque d'élégance dans les costumes.
Les costumes sont très malins.
Les costumes sont très malins. Excuse-moi, il y a un mélange
qui mêle l'ancien et le moderne.
Les couleurs.
Ah non, moi je les trouve bien.
Ça, Fabienne,
ouais. Et j'ai eu. En fait, mais c'est pas parce qu'on n'a jamais vu, on a tout vu, Pierre, et moi encore plus que vous.
Ne dites pas ça, Fabienne.
On a tout vu, ça n'empêche pas de trouver des choses bien de temps en temps.
Non, mais moi, en fait, j'ai trouvé cette histoire, j'ai trouvé le spectacle assez interminable, et le seul moment.
Il dure 2 heures.
J'avoue que le monologue de Toretton, il le fait extrêmement bien.
Il le fait comme il jouait Cyrano il y a 10 ans. Il joue
un excellent comédien. Oui. Mais pour le reste, effectivement, je n'aime pas le jeu excessif dans lequel est plongée cette troupe. Je ne crois pas, je le redis, quand on découvre que Philippe Torreton est le fils de Annie Mercier dans la pièce. Enfin,
ça c'est la magie du théâtre. Hein.
Le médecin n'articule pas. Enfin, il y a plein de choses.
Son sens de l'ironie.
Ouais, enfin, c'est vraiment la magie, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce spectacle. J'ai un peu le sentiment comme s'il avait été fait trop vite.
Oui, public en liesse.
Là, bah oui, public en liesse. Et ça comment on explique ça? Il y a quand même quelque chose qui se passe. Oui, même si nous, on n'aime pas trop.
Tout à fait. Il y a une sorte de joie sur le plateau qui est communicative. Voilà.
Exactement, une allégresse dans nos temps. Oui, on rit.
Comme au masque.
Et on rit pas beaucoup au festival cette année.
Là. Moi, je n'ai pas ri une seule fois dans ce spectacle.
Oui, mais toi, t'es un pisse froid.
C'est vrai.
La folle journée ou le mariage de Figaro dans une mise en scène de Léna Brébant, c'était la Scala Provence. À Avignon jusqu'au 27 juillet, avant d'être à la Scala Paris du 6 septembre au 4 janvier. Et une tournée s'annonce déjà pour l'année prochaine. On enchaîne avec du théâtre documentaire. La pièce s'intitule « Affaires familiales au pluriel ». Elle est conçue par la metteuse en scène Émilie Rousset. Je dis théâtre documentaire parce qu'au départ, c'est une enquête qu'Émilie Rousset a menée sur les lois qui régissent la famille en Europe. Alors pour ça, elle a interviewé des avocates. En l'occurrence, ce sont toutes des femmes, des avocates spécialisées dans les enlèvements d'enfants, dans les violences intrafamiliales ou dans les droits des familles LGBT. Elle a aussi rencontré une parlementaire et des justiciables, et tout ça à Paris, Milan, Lisbonne, Barcelone. Et à partir de ces entretiens, elle a réalisé un montage de paroles incarnées sur scène par 5 comédiennes et 2 comédiens. Ils reproduisent les questions et les réponses qui ont été recueillies. À certains moments, des extraits de ces entretiens qui ont été filmés donc sont projetés, où on voit les mains et le visage de celles et ceux qui sont interviewés. Et en même temps, sur scène, les comédiens adoptent strictement leur débit et leur gestuelle. Et à chaque fois, ce sont des récits intimes qui percutent la loi. Nous, spectateurs, sommes installés de chaque côté de la scène, recouvertes d'un immense tissu blanc, comme une page blanche, sur laquelle entrent et sortent les acteurs avant de s'asseoir dans les escaliers près de nous, sur les gradins. Fabienne.
Alors moi, je n'ai pas de chance, là, entre Brel et Affaires familiales, parce que c'est un spectacle dans lequel je ne suis pas du tout rentrée. Tout en admirant le travail documentaire d'Émilie Rousset...
qui est au cordeau.
On voit qu'elle a travaillé les archives, qu'elle a rencontré quantité de spécialistes, d'avocats, de magistrats, de victimes. Et ce qu'elle raconte est formidable. Son travail scénographique qui est toujours un petit peu le même, c'est-à-dire qu'elle fait jouer les acteurs et on voit en vidéo exactement les vrais protagonistes et les acteurs reprennent leurs paroles directement. Donc ça, c'est d'une virtuosité assez éblouissante. Mais elle est quand même un peu sadique. Parce que nous imposer des acteurs qui parlent comme les avocats italiens, espagnols, en italien et en espagnol, elle les fait traduire en direct sur scène et pas en sous-titre, ça prend des plombes. On se rend compte après que ces acteurs-là parlent couramment français. Donc il y a un moment de détestation, et en tout cas de ma part, parce que ça dure quand même 2h30. Alors je ne parlerai pas de l'ennui, puisque c'est un spectacle très brillant et visiblement très travaillé.
Mais parfois on décroche.
Voilà, je décroche, j'ai décroché. Et puis je ne sais pas si je vais au théâtre pour voir ce type de spectacle, en fait.
Ça demande une concentration
énorme. Même si c'est formidable que le théâtre nous parle de la société et nous renvoie à la société et nous pose des interrogations.
Avec autant d'exactitude
et de grain à moudre.
Laurent,
le dispositif est absolument passionnant. Bon, déjà, la scénographie, quand on arrive, est éblouissante. Elle est signée, comme d'habitude, Nadia Loro, qui est vraiment une des scénographes les plus stimulantes qui existent dans le paysage théâtral et chorégraphique.
Pourtant, donc, c'est une sorte
de range de skateboard ou alors une page blanche qui est dépliée. Et là-dessus, en trompe-l'œil, on voit des silhouettes de personnages. Et toute la pièce est un trompe-l'œil. C'est-à-dire, c'est une pièce de fantôme. Il y a eu, donc, les personnes, les avocates, les pères de famille, LGBT qui ont été interviewés avant, qui sont les fantômes incorporés par les acteurs sur scène. Ils ne jouent pas les avocats, ils ne font pas les avocats, ni les flics, ni quoi que ce soit. Ils ont incorporé jusqu'au bafouillement même de la prise de parole. Alors on pourrait se dire, c'est un travail de théâtre documentaire. Non, c'est un travail de théâtre documenté. Parce que documentaire, ça aurait été, par exemple, de mettre sur le plateau les avocates ou les pères de famille. Mais en ne le faisant pas, on est véritablement au théâtre. Et ce qui est absolument passionnant, c'est qu'on voit les prises de parole dans la vie civile. Il y a des gens qui ont une éloquence formidable dès le départ. Par exemple, c'est la première intervention avec une actrice qui réincorpore le discours d'une avocate que j'ai reconnue, qui s'appelle Caroline Mécari. Mais parfois, il y a des avocats un peu moins forts ou un peu moins fortes. Et par exemple, c'est le cas d'une avocate plus tard jouée par Manuel Valade, où on se fait un peu chier parce que manifestement, sa prise de parole, il y a beaucoup de bafouillements, etc., etc. Et ce que fait Émilie, c'est qu'elle n'a pas du tout retravaillé les bafouillements, donc on les garde. Et je trouve ça absolument passionnant de voir que, oui, le théâtre est un moyen de faire réécouter le discours de la vie civile. Dernière chose, ça m'a fait penser à un film...
Et de mettre en valeur aussi une parole qui n'est pas formatée, d'une certaine façon.
Exactement. Et donc, l'acteur est prodigieux, alors même que son discours sur scène n'est pas très au point. Mais ça ne veut pas dire qu'il joue mal. Ça m'a fait penser à un film que j'avais adoré il y a très peu de temps, qui s'appelle Little Girl Blue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, de Mona Achache, où Marion Cotillard incorporait véritablement les bafouillements, les prises de parole, jusqu'à la gestuelle même de la mère de famille de la réalisatrice. C'est vraiment du théâtre.
Il faut quand même,
Sandrine,
il faut quand même dire que ce spectacle demande une très très grande concentration.
Il faut être reposé.
C'est bien d'être concentré.
Il faut être reposé.
On s'est reposé chez Lina Brébant, on peut bien aller se concentrer ici.
C'est au-delà de ça. Moi, j'ai trouvé... Donc, une très forte concentration. Et puis, surtout, ce qui m'a mis à des moments pas mal à l'aise, mais je trouve que les déplacements, la manière dont les comédiens bougent sur cette page blanche est souvent artificielle.
Et dans la salle.
Donc ça, ça m'a posé problème. Et puis, je me suis dit, mais avec tous les... Elle doit avoir... Donc, elle a travaillé à partir de rushs, avec tous les rushs qu'elle a. Je me disais, mais ça ferait un documentaire formidable. Et effectivement, toutes ces strates avec ce que disait Fabienne sur le fait qu'on impose pour certains cette traduction dans la traduction, moi, je trouve ça épuisant. Et du coup, cette concentration, parfois, on la perd parce qu'on est un peu noyé. Par contre, on apprend énormément de choses. C'est un cours de droit. Moi, j'ai été très frappée par tout ce qu'on découvre sur la problématique des mères
qui dénoncent
les incestes et dans quel enfer judiciaire elles se retrouvent. Donc, voilà. Mais quand même, c'est...
Exigeant,
oui. C'est
Pierre,
au-delà de ça.
Pierre. Oui, on sent qu'elle a... Émilie Rousset, elle veut prolonger un peu ces théâtres documentaires ou documentés de ces dernières années où, à la fois, on respecte à fond le réel et en même temps, on ne veut pas renoncer aux possibilités du théâtre. Sauf que moi, j'ai... ni eu vraiment l'accès au réel, ni vraiment l'accès au théâtre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des discussions qu'elle transforme en situations. Oui. Et pour moi, ça ne peut pas être des situations, parce que ce sont des discussions dans lesquelles il n'y a pas vraiment de trouble. C'est-à-dire, oui, il y a des bafouillements, mais au fond, la parole de l'avocat ou de l'avocate, elle finit par faire loi, on finit par s'y attacher. Et donc, il n'y a pas de trouble qui émerge du fait de jouer cette situation ou de mettre encore cette situation. Par ailleurs, je trouve que souvent, on perd le sens de la pensée, en fait. C'est comme si là, on rejouait notre discussion debout. Et ben, je trouve qu'on ne comprend pas toujours exactement ce qui se joue.
C'est des interviews.
Oui,
c'est pour ça que quand il y a l'association avec plusieurs personnages où il y a tous ces témoignages de parents, ça fonctionne un peu mieux. Parce que là, on est dans une vraie situation.
C'est
davantage
vrai que
sur un interview simple, face-face, quoi.
Mais pour reprendre la parole de l'auditrice au début qui citait Thiago Rodriguez, moi, je suis partie avec peu d'interrogations sur le dos parce que j'avais l'impression que ces situations étaient assez univoques, qu'elles créaient de l'indignation, mais moi, j'attends du théâtre autre chose.
Affaire familiale d'Émilie Rousset, c'est au théâtre de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon jusqu'au 17 juillet, avant des représentations pour le Festival d'automne au théâtre de la Bastille à Paris. Du 19 septembre au 3 octobre, il y a des dates au lieu unique de Nantes, au CDN d'Orléans en décembre. Et la tournée dure jusqu'en mars prochain. On termine avec La vie rêvée, un seul en scène de Kelly Rivière dans le Festival Off. Le spectacle commence par des saluts de Kelly Rivière en tutu, parce qu'être danseuse, elle en rêvait et ça n'a pas marché. Trop trapue, trop musclée, pas assez longiligne. Elle se rêve ensuite comédienne et se cogne à une autre réalité, celle des castings humiliants ou du théâtre en entreprise où elle participe à des jeux de rôle censés créer un esprit d'équipe entre les employés d'une boîte. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Donc, Kelly rêve de théâtre et sa mère anglaise lui dit « Tu as 45 ans et maybe it's over ». Sur scène, elle incarne une dizaine de personnages, ses proches, vivant ou disparu, grand-mère, ami, bébé, et passe de l'un à l'autre en un geste ou une intonation. Et t'as déjà soupiré, Laurent.
Ah ben oui.
Il veut pas qu'on incarne des personnages.
Ouais. J'en ai mais ras-le-bol. Et pourtant, là, je veux dire, je ne peux pas être contre ce spectacle. Parce que c'est bien fait, exactement. Je ne peux pas être contre ce spectacle, alors que c'est vrai que c'est pas une esthétique qui
me plaît. Il est snob.
C'est non, mais non, ça n'a rien à voir avec le snobisme.
Exigeant.
C'est vraiment le parcours d'une combattante, ce que raconte Kelly Rivière, qui s'appelle Kelly Ruisseau, c'est-à-dire comment devenir actrice.
Son personnage, c'est Kelly Ruisseau.
Kelly Ruisseau, elle, c'est Kelly Rivière. C'est comment devenir actrice, alors même que manifestement, on n'arrivera pas à la hauteur de son rêve et que tout va être des obstacles. Et c'est vrai que être une actrice ou un acteur, c'est ça. Et c'est vrai, ça raconte ça. Après, donc, c'est un seul en scène avec donc la figure imposée comme au patinage artistique, plein de personnages.
Et Dieu sait que tu t'y connais en partie d'âge artistique.
Évidemment, pittoresque. Oui, vous parlez à un ex-champion de France. Mère américaine, anglaise, donc bien sûr snob. Le père soumis. La grand-mère avait l'accent. La directrice de casting, bien sûr insupportable. Ce sont des sketchs à l'intérieur d'un spectacle. Je ne peux plus voir ça. Simplement, cette fois-ci, laisse-moi finir parce que je vais la sauver, c'est que c'est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que Kelly Rivière a vraiment un don de métamorphose dans la voix, dans le... Et ces personnages, en fait, elle ne les joue pas, elle ne les fait pas. Il y a quelque chose d'autre qui part, comme s'il y avait plein de petits théâtres qui arrivaient dans sa prestation. Donc, c'est aller contre mes préjugés, mais c'est vrai que c'est pas vraiment le spectacle que j'adore. Le seul truc qui est pas mal quand même, c'est quand elle se met au piano, qu'elle chante notamment du Jeanne Moreau au départ, il y a quelque chose qui se passe d'autre. Et juste une dernière chose, quand je vois ce genre de spectacle, je vais en finir parce que manifestement je suis toujours celui qui tire à boulet, je sais pas comment on dit, à boulet rouge.
Rouge. Sera pas seul.
Ça me fait penser au film Yannick, vous vous souvenez de Quentin Dupieux. Yannick va voir un spectacle bourgeois.
Mais arrête de parler de cinéma, on est là pour le théâtre.
Tu vas voir, ça parle de théâtre. Il va au théâtre et il voit un spectacle bourgeois qui ne lui plaît pas, il veut flinguer tout le monde et il impose son propre texte qui va raconter sa vie. Et c'est aussi nul que ce qu'il a vu précédemment. C'est-à-dire que lui, il est subjugué, il est amoureux de ce qu'il raconte,
mais
sa propre vie.
Ouais.
Ben si. C'est-à-dire qu'à un moment donné, raconter sa vie ne suffit pas.
Fabienne, raconte-nous.
Ça dépend si elle peut.
Raconte-nous la vie de
Kelly
Rivière.
Contrairement à Laurent, je pense que toutes les vies sont passionnantes de toute façon, quelles qu'elles soient.
Toutes les vies sont passionnantes, mais pas forcément au théâtre.
Fabienne,
c'est ça la différence.
Tout dépend comment tu les racontes.
Toutes les vies ne sont pas passionnantes au théâtre.
Si, ça dépend comment on les rencontre et comment on les met en scène. C'est tout ça la magie du théâtre. Mais enfin, bref, Kelly Rivière, je vais être très brève. Je vais dire que j'ai beaucoup aimé ce spectacle parce que ça raconte pour le coup les errances, les difficultés d'une comédienne qui n'est pas très douée, qui n'a pas pu être danseuse, qui à 45 ans se voit coupée dans les montages des films qu'elle a tournés, qui a une mère qui n'est pas snob mais qui est d'une férocité redoutable et les relations avec la mère sont beaucoup plus passionnantes que tu le dis. Enfin bref, moi je me suis prise d'amour et de tendresse pour cette Kelly Rivière,
et les relations avec la belle-mère
et la belle-mère.
Parce qu'il y a un moment formidable.
Et j'ai passé un délicieux moment
quand elle est dans la voiture et qu'elle se rend justement à ce murder party pour gagner
sa vie. Building en français dans le texte.
Sa belle-mère l'appelle et cette conversation téléphonique qu'elle a dans la voiture avec sa belle-mère. Franchement, c'est un très très bon moment et moi je trouve effectivement c'est pas un spectacle d'une folle originalité. Je suis d'accord avec toi, Laurent.
On aurait pu le voir il y a 10 ans comme on pourra le voir dans 10 ans encore.
Mais c'est une forme qui, quand elle est réussie, on passe quand même un excellent moment.
C'est exactement ce que j'ai dit.
Encore plus difficile pour les comédiens dans 10 ans.
Et moi, ce que j'ai trouvé très réussi,
les spectacles marchent.
Ce que j'ai trouvé très réussi, c'est sa capacité à enchaîner de manière vraiment. Mais on ne s'ennuie jamais et tout semble très très naturel dans ces enchaînements. Alors
elle a travaillé
Elle a travaillé, mais c'est réussi, c'est bien écrit, c'est bien interprété. Donc voilà. Alors, puisque tu fais des références, moi je voulais dire juste que dans ce type de spectacle, si vous aimez Kelly Rivière, allez voir aussi Antonia de Rhindinger, qui est à la Scala et qui aussi est une comédienne qui a une capacité à ne pas faire, mais incarner des personnages, tout ce que déteste Laurent, mais de très belles manières.
Restons sur la vie rêvée de Kelly Rivière. Pour terminer
je vais
avec toi,
conclure
Pierre.
En une phrase, la scène est recouverte d'une multitude de plumes, de plumeaux marronnasses, mais je pense qu'il en aurait fallu plus pour enlever toute la poussière de ce spectacle.
Oh.
Kelly Rivière, le spectacle de Kelly Rivière se joue à la Scala Provence jusqu'à la fin du festival avant une tournée qui vous est précisée sur le site du MAS comme pour les autres spectacles. C'est l'heure de vos coups de cœur pour les spectacles du in ou du off qui sont joués ici à Avignon et ensuite ailleurs. Sandrine.
Alors, un coup de cœur absolu pour Happy Apocalypse de Jean-Christophe Dollet au Théâtre 11. Je suis sortie totalement abasourdie de ce spectacle. Franchement, le off n'a rien à envier au in quand on voit ce que Jean-Christophe Dollet a fait. C'est un spectacle totalement fou qui fait penser, moi, au choc que j'avais ressenti avec le film Le règne animal de Thomas Caillet. Parce que dans ce spectacle, il y a Perle qui est une jeune fille hybride croisée avec le varan de Komodo. Mais il y a plein d'autres choses. On croise des personnages insensés, il y a une scénographie démente, une bande-son extraordinaire. C'est une pièce d'anticipation dans une ambiance pop-rock. C'est un drame festif, c'est une expérience scénographique. C'est pas une dystopie, c'est autre chose que ça. Ça nous parle de où risque d'aller le monde, mais avec un espoir. Et vraiment, c'est moi, je suis sortie totalement scotchée par Happy Apocalypse.
Happy Apocalypse de Jean-Christophe Dollet au Théâtre 11. Fabienne.
Et ça tournera.
Moi, c'est un spectacle qui s'intitule « Peu importe » d'un auteur allemand qui a 55 ans, qui est Marius von Mayenburg, qui a beaucoup travaillé avec notre ami Ostermayer. C'est le couple post-MeToo, un couple où apparemment tout va bien, le mari est éditeur et il s'occupe des enfants, la femme chef d'entreprise puissante et rayonnante à travers le monde, le mari s'occupe du ménage, et puis Marius von Mayenburg fait jouer dans une deuxième partie, les rôles inversés, c'est-à-dire que c'est la femme qui reste à la maison et le mari qui reste tout puissant, et on voit comme le couple a du mal à s'adapter à l'aujourd'hui avec les femmes qui rêvent légitimement d'une carrière, de leur indépendance, de leur liberté. C'est d'une férocité noire et c'est admirablement joué par Marilyn Fontaine et Hassan Timbo. Il faut vraiment y aller.
Peu importe, de Marius von Mayenburg à la Scala Provence. Moi, j'ai choisi un spectacle qui détient le record du titre le plus long de tout le festival. C'est Everybody knows what tomorrow brings and we all know what happened yesterday.
Yeah.
Tout le monde sait de quoi demain sera fait et nous savons tous ce qui s'est passé hier. Et déjà, j'ai épuisé mon temps de parole. En tout cas, je vais le prendre quand même. C'est un solo de danse créé par un artiste magnifique qui s'appelle Mohamed Toubakri. Il est belgo-tunisien. Cette année, je rappelle que la langue arabe est la langue invitée du festival. Et cette langue arabe, ici, on l'entend et on la voit. Le texte, parce que c'est un spectacle de danse avec des mots, le texte est signé de la metteuse en scène et dramaturge tunisienne Essia Jaibi. Et on la voit, cette langue, parce que des mots sont projetés sur une toile au fond de la scène. Il y a aussi du français, de l'anglais. Et le solo de Mohamed Toubakri mêle lui aussi plusieurs danses d'hier et d'aujourd'hui, qui raconte ses influences, qui raconte ses origines. Donc il y a du hip-hop, de la danse contemporaine, de la danse classique, sans hiérarchie. On en garde des images très fortes, comme quand il danse le visage totalement recouvert d'un t-shirt qui lui donne une tête de félin. Je vous raconte pas la fin parce qu'il y a comme un suspense dans ce qu'il dévoile. Donc je redis le titre, Everybody knows what tomorrow brings and we all know what happened yesterday. De Mohamed Toubakri, c'est dans le in aux hivernales à Avignon jusqu'au 20 juillet avec des places entre 10 et 30 euros. Et ce sera au Théâtre de la Bastille à Paris dans le cadre du festival Fait divers du 17 au 20 février. On enchaîne avec toi, Pierre.
Oui, un coup de cœur pour un artiste qui joue deux spectacles dans le festival OFF, qui s'appelle Olivier de Sagazan, qui est un performeur, sculpteur, plasticien, qui travaille beaucoup sur la porosité, l'hybridité entre l'humain et la matière. Donc il y a un spectacle qui est en train de jouer, qui joue jusqu'au 16, qui s'appelle Il nous est arrivé quelque chose, puis à partir du 18 juillet, il reprendra Transfiguration, qu'il a joué au début du festival, donc tout ça à la Manufacture à 20h35.
Et on termine avec toi, Laurent.
un texte très court de Wajdi Mouawad, L'homme en soi qui écrit aux éditions Collège de France, et la transcription de sa leçon inaugurale au Collège de France en février 2025. C'était un de tes coups de cœur. Ils t'ont écouté, ils en ont fait un livre aujourd'hui.
Rebecca,
juste une chose,
YouTube.
C'est le parcours, donc c'est à la fois le parcours de Wajdi Mouawad, mais aussi sa défense et illustration du récit, c'est-à-dire le récit, le grand récit qui fait corps, le récit que la culture occidentale s'interdit après la Shoah. Juste un court extrait, très court, Rebecca. Un lien indéfectible existe en Europe et plus largement en Occident entre récit et exil. Les centres de détention où sont parqués les migrants sont des zoos où l'on enferme les récits de notre époque. Les discours identitaires qui exacerbent le rejet de l'étranger ne sont rien d'autre que des hachoirs des récits de notre époque. Celui qui porte le récit, c'est toujours le survivant.
On rappelle le titre, L'ombre.
L'ombre en soi qui écrit.
De Wajdi Mouawad. C'est à vous, public d'Avignon, pour votre coup de cœur. Si vous souhaitez prendre le micro, il peut circuler jusqu'à vous. Bonjour.
Je vais vous parler de 140 BPM au théâtre de la Porte Saint-Michel à 21h. C'est le spectacle d'une slameuse, ancienne joueuse professionnelle de foot. Et on découvre le sport sous toutes les coutures. Et voilà, on découvre aussi la colère légitime de Melissa Plaza. C'est très intense, c'est un récit très personnel. Voilà. Alors si vous voulez savoir pourquoi Melissa Plaza est une ancienne joueuse de foot tout court et pas de foot féminin, allez voir 140 BPM au théâtre de la Porte Saint-Michel à 21h.
Merci. Sur ma gauche, merci. Bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je voulais parler du Burois à l'espace Roseau Teinturier. Donc c'est un spectacle hyper dynamique avec trois comédiens dans un castelet. Et il y a des lectures à tous les niveaux. On peut le voir soit au niveau premier degré, c'est très drôle, mais c'est beaucoup plus profond que ça aussi, et ça fait écho à plein de choses qu'on voit dans notre société aujourd'hui. Et c'est vraiment tout le monde sort de là avec la patate. Quoi.
On rappelle le titre ?
Uburois à l'espace Roseau Teinturier à 12h55.
Un dernier coup de cœur ou avant-dernier, bonjour.
Bonjour, alors moi je voulais vous parler d'un formidable Carmen, très original, à Villeneuve-les-Avignon, en extérieur, avec trois lieux, des chanteurs impeccables, la compagnie Maurice et les autres, et qui sont aussi des acteurs géniaux, et on rit beaucoup, on chante, on boit un coup, enfin c'est vraiment remarquable, il faut passer le pont, mais ça vaut le coup d'aller jusque là-bas, à l'école Montolivet, je crois.
Carmen, Avignon.
Carmen, Avignon, Avignon.
Des Avignons, c'est à vous, bonjour.
Et moi je vous parle d'un spectacle, d'une chanteuse qu'on a vue hier qui s'appelle Fanny de Poule, et qui est extraordinaire, c'est au Théâtre des Vents, et c'est donc une chanteuse suissesse qui a beaucoup d'humour, qui a de l'énergie, qui nous fait danser, qui est incroyable. Vraiment, allez-y tous.
Un dernier coup de cœur pour de votre part. Oui, bonjour, pour terminer. Bonjour.
Alors, je voulais vraiment à recommander Fils d'Avatar à la manufacture. Alors, c'est une création d'Emmanuel de Candido qui apparemment a déjà été très connu il y a 2 ans à Avignon avec sa pièce Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon. Moi, je suis espagnole, donc je viens un peu découvrir les festivals. Je ne m'attendais pas du tout à voir quelque chose qui m'amène aussi loin, qui m'a vraiment pris les tripes avec une histoire qui est vraie, en fait. C'est apparemment la vraie histoire du comédien et qui a été vraiment, vraiment, vraiment fort pour moi.
On rappelle le titre
pour... Oui, Fils d'Avatar d'Emmanuel de Candido à la Manufacture à 16h05.
Merci beaucoup pour tous vos conseils. Merci d'être venus nombreux pour assister à ce masque la plume depuis la cour du cloître Saint-Louis. Et merci à Pierre Lescolène, Fabienne Pascot, Laurent Goumard, Sandrine Blanchard pour avoir participé au premier des 2 numéros du masque à Avignon. On se retrouve la semaine prochaine en public et toujours avec les mêmes cigales dans cette cour magnifique du cloître Saint-Louis. Guillaume Giraud a réalisé cet épisode du Masque et la Plume avec Virginie Lorda, Florent Bujon, Mamat Leroy et Juliette Vatinel. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation. Et merci aux équipes du festival pour leur accueil. Ma bande et moi vous attendons dimanche prochain aux mêmes heures et sur France Inter, évidemment.